Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12h.
Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et maintenant, la grogne gagne les mairies. Des élus ont décidé de fermer leurs hôtels de ville mardi pour protester, eux aussi, contre la réforme des retraites. Ce sera le cas à Paris. Cela pose un problème de neutralité, estime le gouvernement. Est-ce bien normal de confisquer les services publics? On posera la question à 12h40 à Patrice Bessac, le maire de Montreuil, qui a décidé de rejoindre le mouvement. Dans cette édition également, Bernard Laporte qui démissionne de la présidence de la Fédération française de rugby. La mystérieuse disparition d'un couple d'octogénaires dans le Nord, introuvable depuis le 1er janvier. Et puis vous entendrez Gérald Darmanin réagir à la mort du chat écrasé par un train. C'était début janvier, gare Montparnasse. Le ministre de l'Intérieur qui tacle au passage la SNCF. Après le journal, on reviendra sur le cas des médecins intérimaires, des tarifs exorbitants, une pratique pas vraiment légale mais indispensable aujourd'hui pour faire tourner l'hôpital.
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part près de Lyon où les propriétaires de poules sont priés de ne plus manger d'œufs à cause de la pollution. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien, le salon du mariage c'est ce week-end à Paris. Mais à quoi ressembleront les mariés de 2023? Pas ceux de l'an 2, Pascal, les tendances, les prix, on vous dira tout. Juste avant 13h, LVT Midi, il y a 40 ans disparaissait Louis de Funès, le plus célèbre des gendarmes, l'avare, un monument du cinéma populaire qui guide encore les acteurs du moment, vous verrez. Et c'est d'ailleurs la question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous regardé ces derniers mois au moins un film de Louis de Funès?
Je pense qu'on a tous regardé ces derniers mois au moins un film de Louis de Funès. C'est difficile, effectivement, de ne pas le voir parce qu'il le voit, il les passe, la télévision les passe régulièrement. Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h et on pourra revenir bien sûr sur les propos de Gérald Darmanin qui a taclé la SNCF et cette histoire du petit chat.
Avant ça, la météo, c'est avec vous Claire Delorme aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Oh, ça sera encore bien gris et bien froid avec une température moyenne de 5 degrés.
Merci Claire, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Il est présenté depuis des années comme l'homme fort du rugby français. Condamné pour corruption, Bernard Laporte, qui a fait appel et qui s'était mis en retrait déjà, a démissionné ce matin de la présidence de la Fédération française de rugby. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour.
Le patron du rugby tricolore est donc parti, mais la page Laporte, elle, est loin d'être tournée.
Oui, Amélie Oudéa-Castéra a pris la démission de Bernard Laporte alors qu'elle se rendait à Marcoussis pour inciter ce matin les membres du comité directeur à démissionner. Les 9 membres de l'opposition à l'équipe en place ont suivi les recommandations de la ministre, mais pas les 28 autres dirigeants qui composent l'Assemblée. La situation est donc la suivante. Le comité directeur, dans lequel ne figurent désormais que des partisans de Bernard Laporte, vont désigner un président par intérim. Réaction du leader du collectif Oval Ensemble, qui représente l'opposition, Florian Grill, qui a donc claqué la porte ce matin.
En ce qui nous concerne, on ne peut pas cautionner ce hold-up, cette manière de faire qui est un espèce de diktat sur le rugby français. Ils vont décider entre eux d'un président par intérim nommé parmi les membres du bureau fédéral. Et ce président par intérim aura à gérer sans légitimité par les urnes la fédération jusqu'au mois de juin. Et en juin, un membre du comité directeur, donc comme nous avons démissionné forcément un membre dans leur équipe, pourra se présenter et devenir le nouveau président de la Fédération française de rugby sans en passer par les urnes. C'est un déni de démocratie.
La nomination du président par intérim va prendre quelques jours. Un vrai vaudeville en ovalie où Bernard Laporte reste bien plus qu'un figurant.
Bon, c'est un peu complexe quand même, un peu comme procédure, disons-le.
Plus c'est complexe, plus c'est intéressant, non?
Sans doute.
Merci Jean-Michel Rascol.
RTL Midi.
Ils n'ont pas donné signe de vie depuis le 1er janvier. Grosse inquiétude après la disparition d'un couple d'octogénaires dans le Nord.
Originaire de Roubaix, on sait que Richard et Marie-France, 83 et 79 ans, ont pris la route en fin de journée, quittant leur fille près de Maubeuge pour rentrer chez eux. Depuis, plus rien, Franck Hanson, si ce n'est leur téléphone portable qui a été géolocalisé près de Valenciennes le soir même.
Oui, et ce dernier élément devrait permettre de reconcentrer davantage les recherches dans ce secteur de Marly, alors que leur dernier appel était localisé après Maubeuge. Depuis près d'un mois, des gros moyens ont été déployés, un hélicoptère, des battues en lien avec les policiers belges. Les proches du couple ont collé des centaines d'affichettes. Pour la procureure de Lille, toutes les hypothèses sont envisagées, même si les enquêteurs, comme la famille, privilégient une sortie de route. Une famille toujours dans le doute. Anne-Sophie Legrand est la fille cadette de Marie-France.
Oui, c'est de l'angoisse, en fait, continuellement, en se demandant ce qui a pu leur arriver, quoi. On comprend pas comment une voiture avec deux personnes peut disparaître comme ça dans la nature. Enfin, ça paraît totalement incompréhensible. On voudrait les retrouver. On sait bien qu'au bout de 26 jours, les issues sont, voilà, pas positives. Enfin, à moins d'un miracle. Mais pour nous, c'est important de savoir ce qui s'est passé. Moi, je les ai eus le premier de l'an, en fait, quand ils étaient sur la route. Enfin, au niveau de la voie, tout allait bien. Ils nous auraient pas laissés comme ça sans nouvelles.
Marie-France et Richard Di Gennaro, installés paisiblement à Roubaix, avaient des projets de vacances au soleil pour ce début d'année. Leurs voisins sont également tous mobilisés pour les retrouver. Dans leur salon, le programme télé est resté ouvert à la page du 1er janvier.
Franck Hanson dans le Nord pour RTL.
Des mairies de gauche annoncent leur fermeture mardi prochain pour protester contre la réforme des retraites. Cela pose un problème de neutralité, selon le ministre du Travail.
Olivier Dussopt qui réagissait, oui, à la décision de la maire de Paris, notamment Annie Hidalgo, de suivre, comme d'autres élus, l'appel du communiste Fabien Roussel et donc de fermer l'hôtel de ville mardi prochain. On y reviendra à 12h40 avec le maire de Montreuil, Patrice Bessac, qui a fait le même choix.
L'exécutif qui s'attaque par ailleurs à la maltraitance animale. Chaque commissariat de France aura désormais un référent sur la question.
Un policier ou un gendarme dédié annonce ce matin de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est aussi revenu sur ce sujet sur lequel on ne l'attendait pas forcément, l'affaire du chat écrasé le 2 janvier dernier par un train gare Montparnasse à Paris.
J'étais particulièrement choqué de ce qui s'est passé dans cette gare parisienne et particulièrement choqué aussi de la façon dont la SNCF a géré malheureusement cette terrible affaire. Je pense qu'il y a deux choses à comprendre dans cette situation. Il y a l'acte en lui-même, la mort de ce chat, qui n'est pas un acte anodin devant ses propriétaires, dans des conditions que vous connaissez. L'enquête dira qui est responsable pénalement, et je ne vais pas commenter. Mais il y a surtout un manque de prise en compte, finalement, de la SNCF. Et je crois que c'est ça, sans doute, encore plus grave. Parce qu'il faut éviter que ces actes, évidemment, ne se répètent.
Gérald Darmanin avec nos confrères de BFM TV.
C'est très intéressant parce que je crois que c'est la première réaction d'un homme politique sur la mort de ce petit chat. Même Marine Le Pen, qui pourtant aime les chats, n'a rien dit. Et c'est une question de société. Seul Nicolas Dupont-Aignan avait fait un tweet.
La politique, ce sont aussi les comptes de campagne de la dernière présidentielle qui viennent d'être validés. La Commission nationale des comptes de campagne a approuvé dans l'ensemble, hein, Marie Mollet, les dépenses des candidats, même si elle note quand même quelques irrégularités.
Oui, exactement. Les 12 candidats à la présidentielle peuvent souffler, ils recevront bien un remboursement partiel de leur budget de campagne, mais la Commission a retoqué certaines dépenses de plusieurs candidats, avec en tête Éric Zemmour, qui a écopé d'une sanction de 200 000 euros, car il était toujours journaliste à CNews entre juillet et septembre 2021. La commission a estimé qu'il a bénéficié d'une promotion de sa personnalité, d'une tribune, et donc d'un avantage en nature. Retoqué également 13 000 euros de frais de communication qui auraient été payés à Jacqueline Mourot, vous savez, l'ancienne égérie des Gilets jaunes. La commission n'a pas saisi en échange de quelles prestations cette somme avait été versée. Emmanuel Macron, lui, s'est vu retoqué au total 100 000 euros de remboursement, notamment car il a déclaré sa candidature sur ses réseaux sociaux. Plusieurs millions d'abonnés, une façon d'utiliser des moyens publics à des fins électorales, selon la commission. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est vu rejeter une campagne d'affichage massive à Marseille. 1,2 million d'autocollants placardés dans toute la ville, un volume qui n'était pas justifié d'après la commission, même en pleine campagne électorale. Enfin, du côté de Marine Le Pen, 300 000 euros ont été rejetés. C'est le prix qu'elle a payé pour faire floquer des bus à son image. Un affichage sauvage selon la commission. Si on n'arrive pas à se faire rembourser, ça fait un tout petit peu cher la photo. Réagit-on parmi les cadres du RN.
Merci beaucoup Marie Mollet.
Le sport et l'équipe de France de handball en demi-finale du Mondial ce soir.
Et ça s'annonce difficile hein, face à la Suède qui jouera à domicile, alors que les Suédois ont déjà battu les Bleus en demi lors du dernier mondial et du dernier Euro. Le match en tout cas aura lieu à 21h et vous pourrez le suivre en direct sur RTL en même temps que le match de Ligue 1, là c'est du foot évidemment, entre Lorient et Rennes. Et puis un mot de tennis et de l'Open d'Australie avec la qualification pour la finale à l'instant de Novak Djokovic, vainqueur en 3-7 de Tommy Paul, 7-5, 6-1, 6-2. Djokovic qui affrontera Tsitsipas en finale avec pour objectif un 22e titre en Grand Chelem. La météo, on vous retrouve comme promis Claire Delorme pour un après-midi gris et froid.
Oui, j'ai l'impression qu'on se répète encore hein, parce que c'est exactement la même chose que les jours précédents. Donc beaucoup de grisaille, un ciel très chargé et puis en prime toujours des pluies faibles un peu qui peuvent circuler ici ou là entre la Nouvelle-Aquitaine et les régions de l'Est ainsi que vers les Hauts-de-France, la Bourgogne et la région Rhône-Alpes. On pourrait avoir associé à ces quelques pluies et bien des flocons de neige à basse altitude, que ce soit en direction de l'Auvergne, de la Montagne Noire ou encore vers les Pyrénées ou le Midi toulousain. Et puis de part et d'autre, hein, c'est-à-dire des Pays de la Loire vers le Pays de Caen en passant par la Bretagne, ça sera un ciel beaucoup plus variable, donc oui, avec des éclaircies mais aussi quelques averses qui pourraient être assez copieuses, ça sera davantage calme en Méditerranée, mais là il y aura quand même du vent qui va encore souffler fort, un nouvel épisode de Mistral et Tramontane avec des pointes à plus de 90 km/h. Pour les températures, le froid est bien là, nous sommes 2 à 3 degrés, toujours en dessous des normales, il fera 7 à 13 degrés près de la Méditerranée, 5 à 8 degrés que ce soit vers la Normandie, vers la Bretagne, à la Nouvelle-Aquitaine et souvent 1 à 4 petits degrés ailleurs.
Merci Claire.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous en France, chaque jour l'info au plus près de vous et nous allons partir pour Lyon, la banlieue de Lyon.
Pierre Bénite, exactement, près de Lyon, dans le Rhône, où depuis une dizaine de jours, la préfecture recommande aux propriétaires de poules de ne plus manger d'œufs ni de volailles. Bonjour Peggy Liodeneau.
Bonjour.
Une recommandation qui fait suite à une forte pollution des sols.
Oui, en fait, c'est depuis mai dernier et la révélation dans un documentaire hein, de cette forte pollution au perfluoré dans la vallée de la Chimie que la préfecture du Rhône effectue depuis donc, de nombreuses analyses. Et celles sur les œufs sont alarmantes, avec des taux parfois 16 fois supérieurs à la réglementation européenne. D'où cet avertissement donc, lancé la semaine dernière par la préfecture. Je vous propose d'écouter Valérie Lebourg, elle est directrice départementale de la protection de la population du Rhône.
On a réalisé deux analyses d'œufs chez des particuliers sur des basses-cours en fait, puisqu'on n'a pas d'élevage professionnel dans la zone. Les premières analyses montrent une contamination des sols. Les poules ont pour habitude de picorer le sol et donc de se contaminer vraisemblablement comme ça.
Et qu'en pensent les propriétaires de poules justement, Peggy ?
Alors écoutez, j'ai pu rencontrer Pauline Mayel. Elle est propriétaire depuis 12 ans d'une maison avec jardin sur Irigny, avec vue sur les fameuses usines Arkema. Elle possède une quinzaine de poules et elle est surtout en colère.
Oui, sur le coup, j'étais vraiment choquée, dégoûtée. On est empoisonné malgré nous. Les œufs, les poules, c'est un mode de vie en fait. L'autoconsommation, notre mode de vie, il est remis en cause. Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Moi, je me pose vraiment la question de déménager, vraiment.
Alors, Pauline, pour le moment, n'a pas arrêté de manger ses œufs. Elle attend surtout en fait, des analyses complémentaires. Elle souhaite d'ailleurs monter un collectif de riverains et mener un combat en justice contre les pollueurs.
Mais justement, Peggy, qui sont les pollueurs ?
Alors, ils sont principalement deux dans cette zone. L'entreprise Arkema, classée Seveso, et le site Daikin Chemical. Ces deux entreprises utilisent des polymères fluorés qui créent donc cette pollution. Alors, c'est une pollution éternelle hein, qui a démarré dès les années 60, donc on ne pourra pas l'éradiquer. Mais on peut stopper l'augmentation du taux et pour cela, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour interdire l'utilisation de certains fluorés d'ici fin 2024. Alors, sachez également que l'eau a été testée et les taux flirtent avec le maximum autorisé. Les poissons pêchés dans le Rhône sont eux aussi contaminés et les légumes sont en cours d'analyse. Les résultats sont attendus dans les semaines à venir.
Merci beaucoup Peggy Liodeneau à Pierre Bénite donc dans le Rhône pour RTL.
Focus dans un instant sur les intérimaires de l'hôpital, ceux qu'on appelle les médecins mercenaires et on le dit évidemment entre guillemets.
RTL pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Aujourd'hui, ce qui nous coûte très cher, c'est les remplacements. Et puis l'idée, c'est de cibler des médecins qui nous demandent très cher, ce qu'on appelle des mercenaires, hein, qui viennent faire une vacation pour 1000 à minimum. Mais c'est vraiment un minimum, souvent c'est 1500, 2000. On m'a fait une proposition à 2000 plus 1000 euros de frais, c'est 3000. L'idée, c'est qu'en dépensant dans l'avion, on économise.
Denis Turiot, le maire de Nevers, on vous en parlait hier, un pont aérien a été mis en place entre Dijon et Nevers pour permettre aux Flying Doctors, les médecins volants, de venir dans la capitale de la Nièvre assurer des consultations à l'hôpital. Une solution trouvée pour pallier le désert médical. On va y revenir dans un instant avec Odile Pouget, notre spécialiste santé, experte de ces questions. Alors cette solution d'un avion, d'une navette aérienne pour assurer les consultations à l'hôpital, le maire l'expliquait. Elle est coûteuse, certes, un peu plus de 5000 euros pour l'établissement, ça peut paraître beaucoup. Mais sans ça, Odile, il faudrait recruter des intérimaires et là, souvent, les tarifs s'envolent encore plus.
Oui, alors on cite souvent cette garde de 24 heures d'urgentiste à 3000 euros. Alors 3000 euros, en effet, c'est y compris...
Pour une garde d'une journée.
Hein. Ouais, non, une garde de 24 heures. On parle d'une garde de 24 heures pour un urgentiste, 3000 euros. Dans ces 3000 euros, évidemment, il y a des frais annexes. Qui peuvent se monter à 1000 euros, hôtel, hébergement, repas, etc. Et ça, vraiment, ce n'est pas rare. Hein. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont confrontés à ce genre ce genre de phénomène, surtout, évidemment, en période de forte tension. Le plus courant, c'est quand même 1500 euros pour une garde de week-end contre, il faut le dire, 300 pour un médecin titulaire expérimenté. Et quand on va sur les sites des agences d'intérim, le plus courant, c'est la journée de remplacement à 650 euros pour un praticien hospitalier contre 250 pour un titulaire.
Vous disiez 3000 euros, c'est assez fréquent pour une garde de 24 heures. Je précise que les 5000 euros évoqués par le maire, ça concerne une journée pour 8 médecins,
absolument.
8 médecins qui prennent cet avion.
Absolument. Alors, les spécialités les plus courtisées, c'est vraiment en numéro 1, eh bien, les urgentistes. Ça, c'est numéro 1, c'est les urgentistes qui sont le plus demandés. Derrière, les anesthésistes réanimateurs, les radiologues et puis les gynécologues obstétriciens. Et là, on parle des médecins, hein, les médecins, les praticiens hospitaliers qui seraient environ, c'est difficile à estimer, mais ils seraient environ aujourd'hui 8 à 10 000 à choisir ce genre de contrat extrêmement court, 24-48 heures. Mais il y a aussi le phénomène de l'intérim qui touche de plus en plus le personnel paramédical, les infirmières, les aides-soignantes. On n'a pas tellement de chiffres. On sait qu'à l'hôpital, ces personnes contractuelles sont à peu près 20 000 sur des contrats quand même plus longs, 6 mois, 3 ans. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'infirmières, par exemple, qui démissionnent de leur service
pour faire le choix,
de l'intérim.
Parce qu'évidemment, elles vont gagner mieux leur vie. Il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de loi qui interdit ça ?
Alors si, en 2017, il y a même un décret qui a plafonné justement les revenus dans l'intérim médical, autour de 1200 euros environ maximum pour une garde de 24 heures. Il y a la loi RIST en 2021 qui a encore renforcé ce plafond, mais les décrets n'ont jamais été publiés, donc la loi ne s'applique pas. Évidemment, le gouvernement a sans doute laissé filer de peur de se retrouver avec des services entièrement bloqués. C'est d'ailleurs un dossier absolument très délicat dont s'est emparé l'actuel ministre de la Santé, François Braun, il y a quelques mois. Il avait parlé, rappelez-vous, d'intérim cannibale. Intérim cannibale. Les mots sont assez violents. Il trouve que ces pratiques ne sont pas éthiques et qui coûtent évidemment très cher à l'hôpital et qui déstructurent les services.
Mais on sait ce que ça coûte globalement. Il y a un chiffre qui est sorti. Ça doit être très difficile, j'imagine.
C'est très difficile. On parle d'1,5 milliard pour le coût pour l'hôpital.
Voilà. C'est quoi le problème à la base, Odile ?
Le problème, c'est que les médecins manquent, c'est sûr. Donc,
c'est l'offre et la demande.
L'offre et la demande. Il y a un problème d'offre et de demande. Il y a quand même 30% de postes vacants à l'hôpital. Il y a 10 à 12% d'absentéisme. Hein, et les directeurs d'hôpitaux, en effet, n'ont pas d'autre choix que de payer très cher les remplaçants pour combler les trous, sous peine d'entraîner des situations catastrophiques. Comment voulez-vous faire tourner, par exemple, un service d'urgence 24 heures sur 24 si vous n'avez pas de médecin urgentiste ? Et donc, le problème, c'est aussi la revalorisation des salaires, sachant qu'un médecin titulaire à l'hôpital, il commence avec à peu près 3 500 euros pour plus de 10 années d'études, 3500 euros à un intérimaire, il se fait ça
en 2-3 jours.
En 2-3 jours.
Merci beaucoup Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL.
Dans un instant, RTL Midi, votre vie, le mariage. Voilà, c'est le salon du mariage, c'est ça
qu'il y a, c'est exactement pour ça qu'on en parle, Pascal.
Et ça, c'est bien, chaque année, le salon du mariage. Mais j'ai l'impression que la mariée sera différente cette année. On en parle dans une seconde.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL Midi jusqu'à 13h.
RTL Midi,
votre vie.
RTL Midi, votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait notre quotidien, Pascal, et aujourd'hui...
Bien sûr.
Plus de 300 000 mariages attendus cette année. On rattrape un petit peu les années Covid et toutes ces cérémonies qui avaient dû être annulées. Alors, pour parler du mariage cru...
Pour parier aussi, on peut parier sur le mariage.
Sur un mariage, oui. Ah, bah, l'idée, c'est que ça dure, normalement.
Oui, mais c'est un lapsus révélateur que vous avez fait.
Très bien, monsieur le docteur. Bonjour Stéphane Seban.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du salon du mariage qui se tiendra ce week-end, porte de Versailles à Paris. D'abord, il va ressembler à quoi ce mariage 2023? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport au précédent?
Alors finalement, il n'a rien de très différent puisque les
gens... Vous avez bien fait de venir, alors.
Hein?
Non, je dis vous avez bien fait de venir, c'est rien n'est différent.
Alors rien n'est différent dans la manière de faire la fête, puisque pendant un moment, avec le Covid, on s'était dit est-ce qu'on invite pas, les masques, le gel, etc. Donc là, effectivement, on est revenu au mariage d'avant Covid. On refait la fête de la même manière et on danse ensemble et on s'embrasse. Et voilà, donc le Covid n'a pas changé les choses. On est toujours dans le même milieu festif.
Quelle est la couleur ou le thème de cette année 2023?
Alors, la couleur, ça va être le blanc encore. Hein. Alors, c'est vrai qu'on rêve beaucoup.
Pour la mariée?
Pour la mariée, bien sûr, hein, puisque c'est avec la mariée qui est intéressée par le mariage, en vrai. Hein, ce sont les... Ah ben, oui, tout à fait. Ce sont les femmes qui organisent le mariage.
Ah bon?
Pas le fait de se marier, mais l'organisation du mariage en lui-même, c'est à 90% des femmes.
Oui, mais c'est comme le quotidien, non?
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
C'est comme la vie sur Terre depuis des millions d'années.
Voilà, donc ça ne change rien. On est toujours...
Donc c'est la femme qui choisit le repas?
C'est la femme qui choisit tout, finalement.
C'est la femme qui choisit le lieu?
Elle choisit le lieu, elle choisit le repas, elle choisit la robe, elle aide même à choisir, ou elle fait croire au mari qu'il a choisi son costume, mais...
Mais il y a une tendance des robes de mariée, parce que j'ai le sentiment qu'elles sont vraiment... qu'elles traversent les époques et qu'elles se ressemblent les unes les autres.
Alors non, il y a effectivement plein de formes, plein de matières. On a des robes très près du corps, des robes glamour, des robes princesses avec des crinolines. On a de la dentelle, on a de la soie, on a plein de matières différentes. On a des robes de couleur, on a des robes de plus en plus sexy aujourd'hui qui sont ajourées avec des dentelles. Donc oui, effectivement, on était sur une mode de robe très près du corps, très glamour encore l'année dernière. Et là, on revient finalement au classicisme de la robe princesse classique, telle qu'on peut le voir dans Sissi l'impératrice, par exemple.
La robe, ça fait partie des postes de budget importants dans le prix d'un mariage. Combien ça coûte un mariage aujourd'hui en France, en moyenne?
Alors, la moyenne est de 14 000 euros pour un mariage. Finalement, la robe, c'est pas super important. Ce qui est le plus important, finalement, c'est ce qu'on va donner à manger à ses invités. Ça représente à peu près entre 50 et 60% du coût du mariage.
Et là, il y a des tendances aussi, sur le repas, des choses qu'on ne voyait pas avant?
Alors effectivement, on va privilégier un cocktail long aujourd'hui, puisque la plupart des mariages se passent au printemps et en été. Donc le cocktail va être de plus en plus long, ça peut être un buffet dînatoire aussi, quelque chose d'un petit peu moins guindé, et qui permet de profiter d'un extérieur et d'aller se servir quand on veut.
Est-ce qu'il y a deux tenues pour la mariée, est-ce qu'il y a deux tenues pour le marié?
Alors, ça dépend si on fait un mariage religieux ou pas, puisqu'en général, un mariage se fait dans une journée. Hein, si jamais on fait un mariage religieux, ça peut se faire sur deux jours différents. Donc, ça nécessite peut-être d'avoir deux types de robes, voire trois. Hein, une robe pour la mairie, une robe plus classique pour la mairie, un tailleur, hein, et puis une vraie robe de mariée pour le mariage religieux ou pour le mariage civil.
Et les hommes, comment un homme doit-il s'habiller? Est-ce que le cut et le chapeau ont toujours la cote?
Non, absolument pas. Absolument pas.
C'est
assez surprenant. Alors, dans quatre mariages à l'enterrement, peut-être, mais chez nous, en France, non.
Ah oui?
Non, absolument pas. Ils sont un trois pièces, comme vous êtes habillé aujourd'hui, Pascal.
On se marie un peu tous les jours.
Et voilà, c'est pour ça. Route.
Mais c'est vrai que la tenue, par exemple, j'imagine que c'est un sujet d'abord d'inquiétude. pour les hommes et comme les femmes.
Alors,
la coiffure
pour les femmes.
Est un sujet d'inquiétude pour la femme.
Alors la coiffure est liée à la robe, en fonction de la robe et du décolleté. On n'aura pas le même type de coiffure, une coiffure montée ou une coiffure lâchée. Et effectivement, c'est surtout la robe plus que le costume, puisque c'est la robe d'un jour, c'est la robe de princesse, c'est la robe qu'on va jamais reporter dans sa vie, hein, qu'on va garder dans son placard et éventuellement qu'on va transmettre à sa fille pour qu'elle puisse se déguiser quand elle aura 12-13 ans et dire « je fais comme maman et je suis très jolie dans une robe de mariée ».
Est-ce qu'on offre toujours des dragées à un mariage ?
Alors ça revient à la mode, oui, effectivement. Effectivement, on a un très gros stand de dragées sur le salon du mariage. Non, je ne vais pas citer de marque, j'imagine.
Bah, ou au moins trois. Non, je plaisante.
14 000 euros en moyenne, disiez-vous, mais combien de personnes sont invitées en moyenne dans un mariage ?
85. Il y a 85 personnes. Donc, effectivement, on est en décroissance en termes du nombre d'invités. On n'était pas loin d'une centaine de personnes il y a encore 10 ans.
Orchestre ou sono ?
On est plus sono, où on peut être sur du DJ live, c'est-à-dire qu'on a effectivement un DJ, mais aussi des guitaristes, des percus, des saxos. Qui peuvent
et puis il faut contenter tout le monde, et par définition, dans un mariage, il y a beaucoup d'écart d'âge entre la grand-mère, voire l'arrière-grand-mère qui est là, et puis les plus jeunes.
Alors on va parler aux plus vieux au début du mariage, et puis sur la fin, après le dîner, on va parler aux plus jeunes en termes musicaux.
Eh bien écoutez, c'était très intéressant de vous écouter. Je ne sais pas si c'est dans vos projets.
Bah, on sait tout maintenant, Pascal. Il n'y a plus qu'à.
Il n'y a plus qu'à.
Merci beaucoup, Stéphane Seban. Je rappelle.
Il est 12h28.
Le salon du mariage, c'est ce week-end à Paris, porte de Versailles.
Et puis on peut voir Le Sens de la Fête avec Jean-Pierre Bacri, qui est un peu votre. Vous jouez le rôle de Jean-Pierre Bacri toutes les semaines.
C'est une excellente comédie, effectivement, mais qui ne représente pas tout à fait le marché du mariage. Mais bon, c'est fait pour faire rire.
Merci beaucoup. L'info revient dans une seconde.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi. Il est 12h31, on est un poil en retard.
RTL Midi.
Le 12h30.
Céline Landreau et Pascal Pro.
À la recherche du temps perdu avec vous, Céline.
13 000 recrutements annoncés cette année chez Airbus. Le secteur de l'aérien retrouve des couleurs, vous l'entendrez. Des maires qui décident de fermer leur hôtel de ville mardi pour soutenir la mobilisation contre la réforme des retraites. Le gouvernement évoque un problème de neutralité. Est-ce une confiscation des services publics ? On posera la question à Patrice Bessac, le maire de Montreuil, après le journal. La politique, c'est aussi le psychodrame qui continue au Parti Socialiste, réuni en congrès à Marseille. On parlera hand dans ce journal puisque les Bleus sont en demi-finale du Mondial ce soir, mais l'affaire n'est pas gagnée, loin de là, face à la Suède. Et puis Aya Nakamura, la star de la chanson française, sort son nouvel album aujourd'hui. Elle l'a évoqué au micro d'RTL, vous l'entendrez à la fin de ce journal. La culture, c'est aussi le 40e anniversaire de la mort de Louis de Funès aujourd'hui, géant du cinéma qui inspire toujours la génération actuelle et qui inspire aussi la question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous regardé ces derniers mois au moins un film de Louis de Funès ?
Et qui inspirera les auditeurs jusqu'à 14h30.
La météo complète à la fin du journal, mais déjà un indice pour cet après-midi, Claire Delorme.
Très simple, hein. Gris, froid et même en dessous des normales de saison avec 4 degrés à Paris, 3 degrés à Lyon et 8 degrés à Marseille.
Merci Claire, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Une bonne nouvelle donc pour commencer ce journal. Elles ne sont pas si nombreuses en ce moment sur le front économique. Après avoir souffert pendant la pandémie de Covid, supprimé des milliers d'emplois, voilà qu'Airbus reprend des couleurs et renfloue ses effectifs. 13 000 salariés seront ainsi embauchés cette année, Arnaud Touche.
Absolument, des embauches pour répondre aux demandes des clients car Airbus monte en cadence, notamment sur ses avions monocouloirs comme l'A320 et l'A220 qui se vendent toujours très bien. Une donnée pour bien comprendre. Si aujourd'hui Céline ou Pascal, vous souhaitez acheter un Airbus, eh bien, sachez qu'il ne sera pas livré avant 2027, quelques millions d'euros, une broutille. Attendez un petit peu parce que c'est pas avant 2027 pour la livraison, car le carnet de commandes est déjà plein. Airbus produisait 40 à 320 par mois pendant la pandémie. Elle compte produire 65 à 320 par mois l'année prochaine et jusqu'à 75 d'ici à 2030. Et ce sont d'ailleurs majoritairement des cadres qui sont embauchés et notamment des femmes ingénieures. Airbus recrute aussi en pensant au futur, car vous le savez, l'avionneur européen veut commercialiser un avion à hydrogène en 2035. Pour cela, il faut des têtes pensantes et aussi de la main d'œuvre. Tout ça se prépare dès maintenant. Ces 13 000 embauches sont réparties dans 4 pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France, pays dans lesquels Airbus est implanté. Des embauches qui concernent majoritairement la branche avions commerciaux, mais aussi celle de la défense ou encore les hélicoptères.
Arnaud Touche, merci.
Avant la deuxième grande journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites mardi, les actions se multiplient.
Il y a bien sûr ces maires qui ont décidé de fermer leur mairie. Mardi, on sera d'ailleurs avec l'un d'eux, Patrice Bessac, l'élu communiste de Montreuil, après le journal. Mais cette contestation, elle passe aussi par des actions Robin des Bois, c'est ainsi qu'on les a surnommés dans le secteur de l'énergie. Claude Martin, le secrétaire fédéral de la CGT Mines Énergie, les explique.
Eh bien, ce sont des opérations qui consistent en fait sur la mise en place de la gratuité d'électricité ou de gaz sur des lieux publics comme les hôpitaux, des cliniques ou des piscines municipales ou bien là dans des lycées, dans des bibliothèques. Alors il y a aussi des opérations de rétablissement pour les usagers qui ont été coupés en électricité. Il faut bien comprendre au niveau des pouvoirs publics qu'aujourd'hui notre fédération a la main sur le réseau. Et donc là, aujourd'hui, ce sont des actions, on va dire plutôt symboliques, mais qui font passer clairement le message qu'on peut intervenir où on veut, quand on veut. On est capable du meilleur comme du plus dur.
Claude Martin, le secrétaire fédéral de la CGT Mines Énergie, avec Pierre Herbulot pour RTL.
Cela ressemble à ces réunions de famille où les dîners s'annoncent électriques. Le congrès du Parti Socialiste s'ouvre aujourd'hui à Marseille.
Et il s'annonce houleux, oui, tant le parti se déchire depuis des jours pour se choisir un chef et plus largement pour décider de son avenir au sein de la NUP, Marie-Bénédicte Allaire. Alors ce n'est pas plus belle la vie, mais ce feuilleton-là dure depuis plus d'une semaine et de psychodrame en psychodrame, rien n'est encore réglé.
Ben non, effectivement, les socialistes sont arrivés à Marseille sans avoir rien réglé. Olivier Faure affirme que sa réélection est claire, mais il reconnaît qu'elle est étroite. Il fait donc une proposition inédite. Il reste numéro un, mais il propose à Nicolas Mayer-Rossignol une direction collégiale, pas suffisant pour son adversaire qui voudrait un directoire, ce qu'évidemment Olivier Faure refuse. Alors les discussions en coulisses vont se poursuivre et le dénouement n'aura peut-être lieu que demain matin. C'est là que les militants délégués au Congrès doivent voter pour entériner formellement le nom du nouveau premier secrétaire. D'habitude, c'est une formalité, mais cette fois, ce sera peut-être le moment clé du Congrès.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Le gouvernement s'attaque à la question de la maltraitance animale. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé ce matin que désormais un policier ou un gendarme sera formé et désigné référent sur ces questions de maltraitance animale dans les 4000 commissariats français.
Un homme de 50 ans mis en examen a écroué hier soir à Paris, soupçonné d'avoir empoisonné sa femme au mercure.
La victime était hospitalisée depuis la mi-octobre. Anne Lehenaf, elle a succombé le 19 janvier dernier.
Oui, apparemment, le couple était en instance de séparation et il semble, c'est une piste en tout cas, que lui n'était pas d'accord avec cette séparation. Sa compagne, son ex-compagne, Catherine, 46 ans, était très fatiguée, elle avait très mal à la tête. Et ce qui est curieux, c'est que c'est lui qui a mis les médecins sur la piste du mercure, comme pour suggérer une intoxication liée au bâtiment ou à l'environnement. Les analyses ont révélé effectivement que cette femme a été empoisonnée depuis plusieurs mois au mercure, un métal lourd, toxique, assez facile à se procurer dans le commerce. Le domicile du suspect est perquisitionné et les policiers y découvrent deux flacons de mercure vide et un chat mort dans le frigo. Des analyses sont en cours sur l'animal pour tenter de savoir si lui aussi a été victime d'empoisonnement au mercure, comme s'il avait servi un peu de test. Le suspect mis en examen pour empoisonnement avec préméditation, ni toute implication.
Anne Lehenaf pour RTL.
RTL Midi.
Le sport et le hand avec des bleus en quête d'exploit ce soir en Suède.
L'équipe de France affrontera les Suédois chez eux pour une place en finale du mondial des Scandinaves qui ont déjà battu les bleus en demi lors des derniers mondiaux et euros. Le sélectionneur Guillaume Gilles le sait, ce soir les Français devront être irréprochables pour continuer à y rêver.
On a livré des grands matchs, mais on a dans tous ces matchs été par moments un peu inconstant, avec des phases de moins grande qualité. Là, clairement, jouer le deuxième pays hôte à domicile, dans un contexte de bataille pour accéder à une finale, on sait que ce combat va être acharné et que ça nécessitera de notre part d'être à notre meilleur niveau. Donc, en fait, peu importe savoir si ce qu'on a fait jusqu'à présent était suffisant, de très grandes performances ou pas assez, c'est ce qu'on sera capable de faire qui sera déterminant.
Guillaume Gilles, le sélectionneur des Bleus avec Isabelle Langer. La demi-finale, ce sera donc à 21h à suivre sur RTL, en direct dans la soirée foot, puisqu'il y a aussi de la Ligue 1 au programme, avec Lorient-Rennes, derby breton, là aussi à 21h.
Et puis au rayon culture, un album très attendu sort aujourd'hui, celui d'Aya Nakamura.
Le quatrième album de l'artiste, vous savez, la chanteuse de Jaja, celle qui cumule déjà 6 milliards de streams dans le monde, c'est-à-dire d'écoute en ligne de ses morceaux, c'est colossal. Ce quatrième album s'appelle DNK, pour Danioko, son nom de famille, famille qui lui a permis d'être ce qu'elle est aujourd'hui.
On a des caractères bien trempés, il y a des gentils, il y a des méchants. Je fais partie des gentils ou des méchants, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, on est très sensibles. Je suis très enfantine, je n'ai pas de secret dans ma personnalité en fait. C'est, je dis un peu tout et des fois ce qu'il ne faut pas dire. Du coup, ça peut paraître un peu maladroit, mais ouais, j'ai ce défaut-là, moi, de tout montrer. Quand j'étais petite, ma mère me dit « Mais pour qui tu te prends ?» Nanani, nanana.
Est-ce que, Aya, vous avez compris avec le temps pourquoi vous êtes aussi populaire ?
Peut-être parce que je suis un peu trop naturelle, je pense, sans filtre. On peut ne pas m'aimer, mais au moins, on ne peut pas dire qu'Aya, c'est une artiste diva, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas l'air formaté, quoi.
Vous n'avez pas de manager depuis 8 ans, vous gérez toute seule votre carrière.
Bah, ça me permet aussi, moi, de ne pas oublier pourquoi je fais ça.
C'était un des albums précédents, Pascal. Aya Nakamura, donc avec Steven Bellery pour RTL.
Dans une seconde, Patrice Bessac, le maire de Montreuil, qui nous expliquera pourquoi sa mairie sera fermée le 31 janvier. À tout de suite.
Avant ça, un petit mot de météo avec Claire Delorme pour nous raconter ce qui nous attend cet après-midi.
Hein, vous en dites quoi, Pascal ? Même si c'est vrai que depuis ces derniers jours, on prend les mêmes et on recommence, c'est bien gris hein, sur les trois quarts du pays. Que ce soit de la Nouvelle-Aquitaine vers le Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté, en remontant vers les régions du Nord-Est, donc associées à ces nuages, eh bien quelques pluies, mais des pluies relativement faibles, ponctuées de quelques chutes de neige, que ce soit en direction du Massif central, donc l'Auvergne-Montagne Noire, ou encore en direction du Piémont pyrénéen et du Midi toulousain. Là, on pourrait avoir quelques flocons de neige mêlés à de la pluie. De part et d'autre de cette perturbation, nous avons davantage de soleil en direction de la Bretagne, de la Normandie, des Pays de la Loire, mais là aussi avec des nuages porteurs d'averses. Ça sera beaucoup plus calme et ensoleillé en Méditerranée, mais cette fois-ci, au prix du vent. En effet, un nouvel épisode de Mistral et Tramontane se met en place avec des pointes jusqu'à 80-90 km/h, le tout sous une fraîcheur, puisque nous sommes 3 à 4 degrés en dessous des normales encore. Ça se traduit par 4 degrés cet après-midi à Paris, Dijon, 3 degrés à Lyon, 4 degrés également à Toulouse, 8 degrés à Marseille et 8 degrés à Brest. Merci Claire.
Le maire de Montreuil dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Je sais que déjà des maires ont fermé symboliquement leur mairie le 19 janvier. Eh bien, je les appelle, plus nombreux encore, à fermer leur mairie les 2 à 3 heures suffisantes pour que leurs agents puissent partir eux aussi manifester le 31 janvier prochain.
Fabien Roussel, le communiste sur CNews, qui appelait donc les élus à fermer leur mairie mardi prochain pour accompagner la mobilisation contre la réforme des retraites. Les élus de plusieurs villes ont déjà répondu à cet appel. C'est le cas à Paris, Villejuif ou encore à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Montreuil, dont le maire Patrice Bessac est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élu communiste et vous avez donc décidé de fermer votre mairie mardi. Première question concrètement, tout sera fermé ?
Tout sera fermé à partir de midi avec un rassemblement qui est organisé devant la mairie pour ensuite partir avec celles et ceux qui le souhaiteront en manifestation à Paris.
Et les employés municipaux seront payés malgré tout ?
Exactement, puisque c'est une décision de la municipalité. Nous avons au fond estimé qu'il était de notre responsabilité d'incarner la voix de ceux qui aujourd'hui n'en ont pas, c'est-à-dire ces 70% de Français qui ne veulent pas de la réforme des retraites. Vous savez, je reviens d'Allemagne où nous sommes en coopération avec une ville et je suis allé dans un musée. Et j'ai assisté à une scène déchirante. J'ai vu des vieilles femmes qui auraient pu être ma grand-mère en train de balayer, de surveiller les œuvres. Et je me suis dit vraiment que je ne veux pas ça pour mon pays, je ne veux pas ça pour la France. Au fond, moi je suis pour un principe simple, c'est que l'économie doit être au service de l'humain et pas l'humain au service de l'économie.
Mais vous êtes en train de nous dire que les agents donc seront payés pour pouvoir aller manifester s'ils le veulent, payés par le contribuable. Donc il y a des contribuables qui sont favorables à cette réforme. Comment vous leur expliquez qu'ils vont payer pour que d'autres puissent aller manifester contre ?
Vous savez, moi j'ai été réélu au premier tour, les gens savent qu'ils ont élu. Ils savent qu'ils ont élu un homme qui a des convictions, j'en ai. Je m'étais prononcé par exemple pour l'accueil des travailleurs migrants et je rénove à Montreuil des foyers. Ils savent que je suis opposé à cette réforme des retraites et je vais vous faire une confidence. Depuis que j'ai annoncé cette mesure, j'ai plein de messages de Montreuillois qui me félicitent et qui sont heureux. Moi, vous savez, je ne suis pas juste un gestionnaire ou un fonctionnaire. Bien sûr, je gère la mairie, mais je pense aussi à ces aides-soignantes qui sont dans nos EHPAD. Et je me demande comment on va leur demander à 64 ans de continuer à faire des toilettes, à lever des personnes âgées. Je pense quand même, ou je pense par exemple à nos professeurs dans les collèges, il faut à un moment donné respecter la vie, respecter le fait que nous sommes des nations riches et qu'il faut donc... organiser nos droits, organiser notre travail de manière à ce que les gens aient droit à une retraite.
J'entends, Monsieur Bessac, ce que vous dites, mais je ne suis pas certain que les deux exemples que vous avez cités, l'aide-soignante dans l'EHPAD comme le professeur au collège ou au lycée, soient encore en place à 64 ans. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, estime que votre décision pose un problème de neutralité. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je lui réponds que, à mon sens, le gouvernement devrait s'interroger et se dire que la meilleure manière de faire stopper ce mouvement, c'est de soumettre à référendum son projet de loi sur les retraites. Et moi, je réponds au ministre qu'il devrait aussi, lui, faire preuve de neutralité envers ces 70% de Françaises et de Français qui refusent la réforme.
C'est entendu, mais si vous demandez aux gens de voter pour travailler 2 ans de plus, la probabilité est grande qu'ils vous disent non. La question qui convient, c'est est-ce que c'est obligatoire, cette réforme ?
Peut-être qu'on peut proposer un choix, c'est-à-dire est-ce que vous voulez supprimer les 280 milliards d'euros de baisse de cotisation aux entreprises ou est-ce que vous préférez travailler 2 ans de plus ? Est-ce que vous considérez qu'il est normal que pendant les 2 années de confinement, les Français se sont appauvris alors que les plus riches se sont enrichis de manière absolument éhontée, pas seulement en France mais à l'échelle du monde. Et donc, moi je dis simplement une chose simple, les richesses doivent être mieux réparties. Et donc il est possible, comme le dit d'ailleurs le Conseil d'orientation des retraites, de financer notre système de retraite en organisant une meilleure répartition des richesses.
Vous n'avez pas l'impression, malgré tout, de confisquer d'une certaine manière les services publics avec cette décision ?
Écoutez, je préfère fermer une demi-journée plutôt que des millions de gens se voient confisquer 2 années de vie supplémentaires.
Eh bien, merci beaucoup Patrice Bessac, maire communiste de Montreuil en Seine-Saint-Denis et qui accompagne donc ce mouvement de plusieurs élus de gauche qui ont décidé de répondre à l'appel de Fabien Roussel et de fermer donc les hôtels de ville mardi prochain en soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites. Merci beaucoup.
Il y a 40 ans s'éteignait Louis de Funès, on en parle dans une seconde. Il ne se passe pas une semaine et peut-être même un jour sans qu'un de ses films ne soit pas diffusé à la télévision. À tout de suite.
L'actualité vous concerne.
Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi et en ce vendredi 27 janvier, nous célébrons les 40 ans de la disparition de cet immense comédien.
Vous c'était bien là-bas. Vous c'était bien, enfin c'est comme si, comme ça. Je n'ai pas assez triomphant, je n'ai pas assez orgueilleux, de l'orgueil mon frère. Enfin, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Vous aurez reconnu, évidemment, Louis de Funès. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Louis de Funès qui nous quittait donc le 27 janvier 83 à l'âge de 68 ans. Ses films passent et repassent sans cesse à la télévision et ça marche toujours très fort. Qu'est-ce qui explique cet intarissable succès, Stéphane ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un talent unique, un génie du comique qui héritait de la tradition du clown et de Molière. C'est pas un hasard si, sur la fin de sa carrière, de Funès a adapté et tourné sa version de L'Avare. Il y a aussi l'appétit, l'amour d'un cinéma populaire qui n'hésite pas presque à en faire trop, il reste toujours limite. Il y a l'incarnation d'un caractère français, c'est un peu comme Astérix et Obélix, hein. Il est râleur, il est de mauvaise foi. Et puis vous l'avez dit, il y a aussi une disparition assez jeune finalement, 68 ans, avec deux vraies décennies de plein succès. Partir en pleine gloire, bah, ça vous assure une postérité.
Et si on parle chiffres, on sait ce que représente le succès de Louis de Funès ?
Alors il a beaucoup tourné autour des 150 films et au total, on a fait les comptes, 120 millions de spectateurs les ont vus rien qu'en France. Si on ajoute, on en parlait, les diffusions à la télé, qui sont quasi quotidiennes, on dépasse les 300 millions de spectateurs. C'est un chiffre absolument colossal. Les plus gros succès de Funès, dans l'ordre, La Grande Vadrouille, le Corneau d'ailleurs, Le Gendarme de Saint-Tropez et puis ce classique de 1973.
Parce que moi, par exemple, je suis juif.
Comment ça, le mot, vous êtes juif ?
Oh ! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin.
Mais il est pas juif.
Bah si.
Mais toi, t'as d'autres familles.
Si.
Tout ça fait rien, je vous garde quand même.
Rabbi
Les
Jacob.
Aventures de Rabbi Jacob, Gérard Houry, un des grands complices, évidemment, de Louis de Funès.
Il faut rappeler quand même, Stéphane, que si on célèbre aujourd'hui Louis de Funès, ça n'a pas toujours été le cas.
Non, non, loin de là, méprisé, moqué, oublié même de toutes les cérémonies et festivals, le comédien attendra 1980 pour se voir remettre un César d'honneur des mains de Jerry Lewis, autre géant du rire américain, lui maltraité aussi par la critique. De Funès en souffrait, vraiment, mais n'a jamais rien fait pour se couler dans le moule et courir après une reconnaissance que le public lui avait largement accordée depuis longtemps. Entre chaque tournage, il se retirait chez lui, dans son château, près de Nantes, cultivait ses roses et s'occupait de sa famille en préparant ses prochains rôles. C'était un anxieux, un acteur devenu vedette sur le tard, après 40 ans, avec cette peur que ça s'arrête. Ce qui explique sans doute aussi une partie, en partie, sa boulimie de film. Il faut aussi être honnête, il n'a pas fait que des bons films de Funès, il a beaucoup tourné. De l'aveu même de ses partenaires, c'était pas le meilleur compagnon de travail, mais c'était une machine, un orfèvre du rythme et du comique. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Louis de Funès a influencé toutes les générations d'acteurs. Écoutez ces deux témoignages. On commence par Gérard Jugnot, qui incarne la génération suivante de Funès, la relève de la comédie à la française. Figurez-vous que la troupe du Splendide aurait dû tourner avec de Funès.
Je l'ai rencontré une fois quand il est venu voir Le Papy fait de la résistance, parce qu'il devait jouer dedans, et puis il est décédé assez vite. Mais de Funès, les films n'étaient pas formidables toujours, mais lui, il était absolument formidable. Et il avait ce sens de la comédie, pas de la grimace, parce que c'était toujours de la sincérité du clown. Et lui, il l'a trouvé au fil des temps. C'est l'avantage des comiques, qui sont toujours uniques en son genre. Il n'y a pas deux Bourvil, il n'y a pas deux de Funès, il n'y a pas de Coluche. On crée son clown et dans le drame, il n'y a pas ça, quoi.
Voilà pour Gérard Jugnot. Et puis chez les plus jeunes, ça marche aussi. Respect immense pour Louis de Funès. Écoutez Philippe Lachaud.
Louis de Funès, on va dire, donc j'ai grandi avec, évidemment. Le Corneau, je connais des scènes cultes. Rabbi Jacob, pareil. Et j'ai découvert qu'en fait, même Louis de Funès était à son époque, pouvait être extrêmement critiqué dans son genre, passé pour justement pour quelque chose de trop populaire, regarder un peu de haut. Et j'ai fait, waouh, on parle quand même de Louis de Funès. J'ai l'impression que c'était des personnages, moi, complètement intouchables. Je me dis, en fait, faut prendre du recul. Parce que des génies comme ça, tu te dis, mais si même eux, t'en as certains qui osaient les critiquer, c'est que tout va bien.
Vous disiez à l'instant, Stéphane, que Libération avait fait une brève.
Le jour de la mort de Funès, Libé a fait une brève, absolument.
Est-ce qu'il a été remplacé, à votre avis, Louis de Funès ?
Non, je crois pas, parce qu'il a un style de jeu qui est assez inimitable. Les deux seuls, à mon avis, qui possèdent cette vista comique, ce sens du rythme, de la mimique, etc., il y a Clavier, Christian Clavier, et puis je pense que Danny Boone aussi approche un peu le personnage en y ajoutant un petit peu de poésie et un petit côté lunaire, mais de Funès reste vraiment irremplaçable.
On entendait, et peut-être que certains auditeurs ont été surpris ce matin dans la matinale, ce reportage de Vincent Serrano qui est allé voir des adolescents et qui leur a demandé s'ils connaissaient De Funès. Alors autour de la table, évidemment, on a tous en tête ces films, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore et qui voudraient découvrir peut-être ce week-end cet acteur phénoménal qu'il était, si vous aviez un film à conseiller, Stéphane, ce serait lequel ?
Alors peut-être pour le public plus jeune, la trilogie Fantomas. Parce que là, il y a un côté effets spéciaux, il y a un côté fantastique, et puis il y a tout le style de Funès. Et là, il y a de l'aventure, il y a un peu de romance, il y a des décors, et je trouve que pour aller entrer dans l'univers de Funès, avant d'enchaîner peut-être sur les films de Gérard Houry. Cette trilogie-là, elle est à la fois kitsch mais totalement irrésistible.
Et puis j'avais beaucoup aimé le témoignage de Yves Calvi ce matin. Il l'a bien connu parce qu'il disait que c'est un homme qui se protégeait et que c'était sans doute un homme timide. Et c'est toujours un paradoxe de dire qu'un comique comme Louis de Funès puisse être timide. Mais c'est sans doute une réalité.
C'était aussi beaucoup d'anxiété, je crois.
Ouais. Et ce témoignage était vraiment formidable. Il parlait de L'Homme Orchestre, qui est un film moins connu.
Ah oui. Mais vous savez, on a regardé quelque chose parce qu'on vous prépare un podcast avec Anthony Martin. Mmh. Il n'y a aucun des films de Funès qui a fait moins d'un million d'entrées en France. C'est quand même hallucinant. Mmh. Sur 120 films, même ceux moins connus ont fait plus d'un million d'entrées.
Et ce Focus, ce podcast, il sera disponible à partir de ce soir.
Absolument. Hein,
c'est le Focus culturel de tous les vendredis.
Et puis, je sais que Flavie Flamand nous écoute. Et hier, elle a consacré son jour J précisément à Louis de Funès. Et on peut écouter de nouveau ce jour J. C'est disponible sur RTL.fr. Eh bien, c'était très bien.
Eh ben merci.
C'était très, très bien. Il est 12h57. On va pouvoir parler de Louis de Funès. Avec,
et Pascal vous proposera certainement d'autres imitations. Donc, restez à l'écoute, vraiment.
Non, mais tout le monde imite plus ou moins de
Plus ou
de
moins
Funès.
Bien aussi.
Voilà. Plus ou moins bien, bien évidemment. La pause. On parlera également de Gérald Darmanin qui s'est dit choqué du petit chat. C'est une affaire qui nous intéresse grandement.
Chat écrasé par un train.
Exactement, parce que c'est le premier homme politique du gouvernement à s'être prononcé sur cela. Et croyez-moi, ça choque beaucoup de gens. Non pas qu'il se soit prononcé et qu'il a été choqué, mais parce que. Peut-être aussi, mais parce que personne au gouvernement ne s'était exprimé sur la mort du petit chat. Il est 12h58, à tout de suite.
RTL Midi. RTL.
Il est l'or.
Il est 13h.